Bonjour et bienvenue dans Histoire, Histoire. Une émission qui vous embarque de l'arise à la laise à la découverte de l'histoire et des légendes du Volvestre. Entre l'histoire attestée, la certifiée qu'on trouve dans les livres savants et les histoires que l'on raconte les nuits d'hiver quand les pierres fendent leurs secrets, je vous invite à une balade contée, bonne à bouleverser nos savoirs et à enchanter nos regards. Histoire, Histoire. Un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la communauté de communes du Volvestre. Aujourd'hui, notre curiosité vagabonde nous mène à Rieux-Volvestre pour une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce que figurez-vous que sur le chemin, j'ai rencontré trois compères bien du cru pour m'accompagner. Les musiciens du trio Rogue avec Tom Grimaud au piano, Antonin Pommel au saxophone ténor et soprano et Paul Lamarck au saxophone baryton. S'il me revient d'inventer et de tirer les fils de ce récit, c'est bien eux en revanche qui, avec la partition du trio pour piano opus 3 d'Ernest Chausson, nous porteront dans leurs notes en escalier hautes et profondes comme les tours de cette très ancienne cité. Alors accrochez bien votre casque audio, montez le son de votre auto, nous partons pour l'an de grâce 1794 et les berges de la Rise. Oh zut, c'est pas précis. Nous avons atterri à l'endroit où la Rise se jette dans la Garonne, pas loin de Carbonne. Bon, il va falloir marcher. On va remonter la Rise. Arise, qui veut dire ruisseau d'ailleurs, dans la langue ibérique. On va remonter la Rise et on tombera forcément sur Rieux. Rieux, qui veut dire ruisseau d'ailleurs, dans la vieille langue latine. Eh oui, avec toutes ces rivières, on dirait bien comme le général MacMahon en 1875 pendant la crue de Toulouse. Que d'eau, que d'eau! Mais tout de même, comme elle est belle la Rise à l'automne, les frênes, les ormes, les chênes ont tiré leurs roues comme un manteau de feu. La rivière chante, des pluies abondantes, et le martin-pêcheur trace son trait bleu, d'une rive à l'autre, sous nos regards ravis de rivois. Les rivois, ce sont les habitants de Rieux. Attention! On tire des flèches par ici, baissez-vous! Eh, mais c'est qu'ils sont dangereux dans le coin! Et quelqu'un tire à l'arc sur le banc de sable, là, sur la berge, au pied de la cathédrale de la Nativité de Marie, sous le vieux pont de la Jousse. C'est sans doute un archer qui s'entraîne en cachette pour le tir du papogaï. Comment? Le papogaï, vous ne connaissez pas? Je vous explique. Le papogaï, c'est une tradition médiévale rare qui court depuis 1585 à Rieux et qui se fête encore aujourd'hui tous les premiers dimanches de mai. L'histoire du papogaï est aussi belle que sanglante et elle nous ramène bien en arrière, à la bataille de Crécy en 1346. C'est à ce moment-là que la cavalerie française a été décimée par les archers anglais d'Édouard III. Le roi de l'époque, Philippe VI de Valois, bien décidé à tirer les leçons d'une telle défaite, ordonna alors de développer les jeux d'adresse et les concours de tir afin d'inciter les populations à un meilleur maniement de l'arc et de l'arbalète. Rieux ne fut pas exempte d'un tel engouement. Et c'est dans ce contexte qu'est né le concours du papogaï. Vous allez me dire, mais papogaï, ça veut dire quoi? Dans la langue médiévale, papogaï signifie perroquet. Et tout l'art du concours qui se pratique à Rieux consiste justement à faire tomber à coups de flèche ce fameux perroquet en bois placé au haut d'un mât de 40 mètres, soit un immeuble de 12 étages. Gare aux flèches perdues. Il faut imaginer tout de même une quarantaine d'archers visant l'oiseau. Pour les plus jeunes, un mât de 20 mètres de haut est positionné. Ce jour-là, même les dindes de Noël sont mieux loties que le perroquet piqué à son poteau. Et l'on comprend pourquoi tant de preux s'y essayent. Pensez donc, celui qui d'un trait fait choir l'oiseau devient pour une année rey de la cité, le concours étant uniquement masculin. Le prix à gagner, ce ne sont pas les vacances au fort de Brégançon du président de la République, mais le droit de défiler une flèche à la main sous les hommages des chevaliers, les compliments des dames, le salut de l'évêque, jusqu'à un promontoire où l'attendent un connétable, qui est le chef des armées, rappelons-le, un trésorier et un huissier, allant accorder à l'heureux Thorgal Garonnet, accrochez-vous, une exonération d'impôts pour un an, une exemption de guet, et parfois même le droit d'importer et de vendre une certaine quantité de vin. Pas mal, non? Revers de la médaille, le Rey de l'année précédente se doit de payer un fifre, un tambourin, un jambon, deux flacons de vin et les petites victuailles du concours de l'année suivante, tout en conviant le beau monde rivois à sa demeure pour un bal aux chandelles. Et du beau monde s'en est, puisque seule la compagnie des gens de l'Arbalète, fondée en 1585 et réservée aux gentilshommes, a droit à ses privilèges. Les archers de l'autre compagnie, fondée en 1589 et destinée aux artisans et paysans, ont quant à eux de quoi aller se rhabiller avec pour trophée un chapeau et une paire de gants. Bon, de nos jours, la Révolution française est passée par là, et on met tout le monde dans le même papogaï. D'ailleurs, les membres des archers du papogaï se reconnaissent aux macarons qu'ils collent sur leur voiture ou leur plaque minéralogique. Alors, ouvrez l'œil. Attention ! Une autre flèche, dans le mille cette fois-ci. Vous avez vu ? Sacré archer ! Ah, et pas vieux en plus, hein ? Un gamin, il doit avoir quoi ? 12 ans, tout maigrelet comme ça, non ?
Alba ! Attends un peu que je t'attrape, anguille rétive ! Je t'avais pourtant interdit de toucher à mon arc! Alba! Viens par ici! Cette fois, c'est la raclée. Tu vas finir dans les geôles de la Tourasse, c'est moi qui te le dis! Alba! Tu viens par ici! Alba!
Ah tiens, notre archer est une archère! Parlons-en, tiens, de la Tourasse. Cette fabuleuse bâtisse du XIIIe siècle, encore debout aujourd'hui à Rieux et qu'on peut trouver dans la rue du Théâtre. On y reviendra d'ailleurs sur la rue du Théâtre. L'histoire de la Tourasse est singulière et composite. Elle nous ramène à la naissance de Rieux en l'an 955. C'est la date à laquelle l'évêque de Toulouse vend l'église primitive de Rieux à un certain Amélius. Plus tard, les héritiers d'Amélius feront donation de l'église et des terres à l'abbaye de Lézat-sur-Lèze, laquelle créera un village en pareage avec les puissantes familles des Tersac, co-seigneur de Rieux, avec entre autres dans le désordre historique les Jansac, les Montaud, les Marquefave, Lévis, Binck ou Vaxis. Et ce sont justement les Tersac qui construisirent au XIIIe siècle cette Tourasse. En 1517, une fois la famille Tersac éteinte, le bâtiment fut vendu par les Marquefave à la communauté pour qu'il devienne hôtel de ville, et ce, jusqu'à la Révolution. Mais il n'était pas qu'hôtel de ville. Il servit aussi d'arsenal, de conservatoire des archives et surtout de prison avec, en 1560, son hôte le plus romanesque, Arnaud Dutille, l'usurpateur du bien connu Martin Guerre. Je vous dois quelques explications. Après la mort de Richard III de Tersac, Rieux s'est vu rattaché à la couronne de France, acquérant au passage, en 1272, le titre de « jugerie royale » et par là même, c'est en effet à Rieux que s'est déroulé le premier procès de l'affaire Martin Guerre qui eut lieu à Artigat et dans laquelle Arnaud Dutille se serait fait passer des années durant pour Martin Guerre, l'époux de la fortunée Bertrande de Rolls. L'histoire, hautement romanesque, hein, je l'ai dit, se retrouve d'ailleurs dans Les Deux Dianes d'Alexandre Dumas ainsi que dans le film bien connu Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne. Dans la version américaine Somersby, c'est par ailleurs Jodie Foster qui reprend le rôle de Nathalie Baye. Eh, Jodie Foster à Rieux, qui s'y serait attendu? Succès cinématographique pour les uns, mais pendaison pour Arnaud Dutille. Bien avant que la Tourasse, en 1923, ne devienne, comme certains l'ont connu, un enchanteur théâtral italien, puis un cinéma où peut-être on vit Nathalie Baye et Jodie Foster. En cette année 1794 donc, on pouvait trouver dans les geôles de la Tourasse brigands, prisonniers de droit commun, déserteurs et autres réfractaires aux idées nouvelles de la Révolution en attente de jugement. Les anneaux murs et graffitis qui y demeurent en attestent encore. Il a été déclaré monument historique depuis, mais... quand la Tourasse reprendra-t-elle vie? Tant que ce suspense demeure, revenons donc à notre Alba, autre prisonnière, mais de ses parents austères. Le jour a décliné pendant que je vous racontais tout ça, et en ces temps de troubles, il ne fait pas bon qu'un comité révolutionnaire nous arrête et nous pose des questions. Allons donc trouver refuge dans un petit perchoir prochain de la cathédrale. Hé, pendant qu'on monte la rue, vous la voyez là? Tout au haut de la tour Valtan, à sa fenêtre, rue de l'Évêché? Cette ombre qui se découpe. Mais oui, c'est elle, c'est Alba. Elle regarde, mélancolique, les pigeons qui, après une dernière boucle autour de la cloche de la Tourasse, vont se percher sous la vieille halle ou dans les nichoirs des Jacobins. Elle regarde les choucas faire un dernier survol du clocher octogonal de la cathédrale avant la nuit. Et elle pense à ce jour de la fin du XIVe siècle où la foudre s'est abattue sur le clocher, le faisant tomber sur la nef avec de gros dégâts. Et elle se dit qu'elle aussi, elle aimerait tout casser, s'échapper, voler comme ces oiseaux, ou frapper comme la foudre, s'enfuir, entrer dans le brigandage comme Cartouche ou Mandrin. Et puis, ses yeux se posent sur ce tas de pierres devant le pont de la Jousse, et voilà qu'elle pense à ces dernières années passées, aussi excitantes que terrifiantes depuis 1789 et l'abolition des privilèges. Elle voit encore les traces des destructions récentes, les tours et les créneaux mis à bas, et les tableaux brûlés, les statues de bois bûchées comme cette Vierge à l'enfant qu'elle aimait tant petite, le métal du portail fondu, livré au parc d'artillerie de Toulouse, et les bières des évêques renversées, le plomb de la toiture, les cloches du carillon, les chandeliers fondus eux aussi, et tous les biens vendus ou confisqués. C'est peut-être tant mieux, se dit-elle. Mais tout de même, et c'est à ce moment-là, à l'heure entre chien et loup, qu'elle voit passer furtivement une bande de brigands armés tels qu'on les craint dans les campagnes à ces heures sombres. Dans la cité, nul ne les a encore remarqués. Ces brigands, pauvres et sans scrupules, ni monarchistes, ni révolutionnaires, profitant de la guerre civile des levées de troupes parties combattre aux frontières extérieures les monarchies hostiles au nouveau régime, ils pillent ce qui peut l'être encore et... Oh, vous voyez? Ils tentent d'entrer dans la cathédrale. C'est le trésor qu'ils convoitent, regardez. Ils entrent. Du haut de sa tour, Alba les a vus, elle aussi. Comment prévenir? Punie, la porte d'Alba est fermée, mais... Mais que fait-elle? Elle ouvre la fenêtre? Elle a son arc? Elle vise au ciel, mais pourquoi? Oh! Du premier coup, elle vient de tirer dans la cloche de la Tourasse! Cette cloche encore en place, fondue en 1738 et sur laquelle il est écrit « Alexandre de Joanne de Sommery étant évêque de Rieux » avec le verset « Veillez et priez car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure ». L'usage veut que cette cloche signale à la population la naissance d'un incendie, l'approche d'une troupe suspecte, un appel au rassemblement. Elle est maligne, notre Alba. Va-t-on l'entendre? Oh, dans le mille à nouveau! Et encore! Et encore! Ah, cette fois des gens sortent. Ils sont curieux. Et son père qui revient. Père! Du haut de sa tour, elle lui jette son arc. Et regardez qui sort encore de la cathédrale. Les malandrins! Ils ont encore avec eux une étrange caissette. Vous savez ce que c'est? La chasse de Saint-Sigis. C'est dans cette caissette que sont conservées les reliques du protecteur de la ville depuis 1384. Et d'un protecteur, on en a bien besoin. Il paraît que Saint-Sigis fut jadis un guerrier au service de Charlemagne venu combattre les Sarrasins et qui fut fait prisonnier non loin de Cazères, puis martyr à Angonia. Oui, l'actuel Martre Tolosane. Et ce martyr, on l'a assassiné à coups de marteau de guerre pour avoir refusé de renier sa foi. Ah, ça y est, l'alerte est donnée. De ce qui fut le palais épiscopal de 1317 à 1792, le diocèse de Rieux, capitale du Volvestre, du monde sort et s'affole. C'est la garnison. Elle prend en chasse les voleurs de Saint-Sigis. Ah oui, quand même, c'est que révolutionnaire ou pas, on a ses convictions. Et nul ne saurait toucher à un cheveu d'un Rivois, encore moins à LA dent de Saint-Sigis, sertie dans son cylindre d'argent et préservée dans le coffret doré qu'ils emportent. Les voici qui prennent le vieux pont d'Aurillac pour filer plein sud. De sa fenêtre, c'est fini. Alba ne peut plus les voir. Nos brigands se mettent en selle, ils s'apprêtent à détaler. Ils avaient laissé leurs chevaux cachés derrière la chapelle Notre-Dame de Bonne-Garde. De Bonne-Garde, la bien nommée. Mais ils sont trop loin pour être rattrapés. On crie, on court. Mais vous avez vu cette flèche? Elle a manqué de peu le cavalier. Il continue sa course. Ah mais... Qu'est-ce qui tombe de son cheval? Ce sac en toile? Mais oui, c'est bien la caissette qu'il voulait emporter. La flèche aura coupé le lien. Et vous reconnaissez le tireur? C'est Mallory Coquille, le père d'Alba. Celui-là même qui fut nommé « Rey de la cité » en mai dernier au Papogaï. Quelle famille, décidément. Mais rentrons. Avec la garde sur le qui-vive, il ne serait pas bon que l'on nous trouve et nous mette aussi au cachot de la tourasse. Et je crains les septembriseurs de cette époque qui tuent encore dans les prisons, royalistes, ecclésiastiques et tout ce qui ne leur revient pas. Alors, des voyageurs comme nous. En revenant sur nos pas, nous délaissons la tourasse à gauche, puis redescendons secrètement la rue Saint-Sizi, passons devant la vieille halle, puis à droite la rue de l'Évêché, l'ancien palais épiscopal, la cathédrale fortifiée, et voilà que nous nous retrouvons sur le pont de l'Ajou, les rives de la Rize où nous sommes arrivés. Qu'est-il devenu d'Alba dans cet an troublé, me direz-vous ? L'histoire ne le dit pas. Mais une légende originale raconte que des années durant, une flèche mystérieuse à la plume coque inconnue se retrouvait plantée dans le papogaï au moment de chaque fête du tir. À chaque fois, un roi fut nommé. Mais en cette année 1794, on se souvient également d'une reine qui avait sauvé le trésor de la ville. C'était Histoire, Histoire. Un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Volvestre. Écrit et réalisé par Gabriel Tamalet, en association avec la compagnie Présence Monde. Nous remercions le trio Rogue pour nous avoir accompagnés en musique dans ce voyage à travers temps. Nous remercions encore les comédiens de l'Atelier des Arts de Rieux pour ne pas avoir laissé sans voix la garnison face aux brigands. Pour plus de renseignements sur la tradition du papogaï et sa légende gasconne, je vous invite à vous rendre sur le site de la Compagnie des Archers à l'adresse www.papogaï.fr. À bientôt sur les chemins du Volvestre.